C'est pas possible qu'il y ait des objets et des personnes qui valent rien. Ça n'existe pas.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Clara Piolato. Merci Clara d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour.
Et de m'avoir rejoint dans nos bureaux à Montreuil. Donc, tu es la cofondatrice de Faire Avec, qui est une association d'architecture. Du coup, avant de rentrer dans les détails du projet et de ton parcours, je te propose de te présenter.
Je m'appelle Clara Piolato, je suis architecte de formation et on a commencé l'aventure de Faire Avec avec Clotilde Buisson et Gwenaëlle Rivière il y a plus d'un an maintenant. On a monté une association qui est plutôt un collectif d'architecture qui mise en fait sur la maîtrise d'œuvre comme moyen de mettre en lien des ressources et des besoins, sachant qu'on est parti de deux constats, le gaspillage dans le secteur du bâtiment et le mal logement. Donc en fait, l'objectif de Faire Avec, c'est vraiment d'aider à la structuration de cette nouvelle filière, donc connecter une offre qui est aujourd'hui considérée comme un lot de déchets qu'on ne peut pas exploiter, et des besoins qui sont inassouvis parce que c'est plutôt des ménages dits précaires qui n'ont pas les moyens de s'offrir finalement des travaux, d'avoir accès à l'architecture qui est pourtant d'intérêt public et qui devrait être accessible à tous.
Et du coup, comment est-ce que vous rendez ça possible? Parce que donc, tu dis que c'est pas possible pour des questions notamment budgétaires.
Mais... Ouais, alors c'est pas impossible, mais c'est pas dans les mœurs. Donc d'accord. En fait, nous, on a beaucoup de promotion à faire de cette démarche pour justement dire que c'est un changement de paradigme et que c'est juste des nouvelles habitudes à prendre.
Ok. Et donc ces habitudes, c'est...
Alors, en tant qu'architecte, puisque finalement, c'est donc une voie professionnelle qu'on a prise, donc c'est des engagements, bien sûr, citoyens aussi, personnels, à l'échelle du quotidien. Mais nous, en tant que professionnels, déjà, c'est de la mettre en œuvre, cette démarche. Donc, c'est que dans nos habitudes de travail, on prend, par exemple, l'habitude d'aller chercher des matériaux sur les plateformes, par exemple, Phoenix, que vous avez déjà rencontré, qui se lance, du coup, dans le gaspillage, dans le secteur du bâtiment aussi. Après l'alimentaire. Et du coup, nous, on fait nos descriptifs. Donc, on liste tous les matériaux dont on a besoin pour faire les travaux. Et dans un tout premier temps, au lieu d'aller chercher chez les fournisseurs traditionnels, on va chercher sur ces plateformes.
Okay.
Donc, on essaye de... Là, c'est en train de se créer. Donc, pour l'instant, on a des partenariats avec les plateformes numériques. Et on leur soumet nos descriptifs. Et puis, on attend les notifications... sur les différents produits qu'on peut récupérer et mettre en œuvre dans nos chantiers.
À quel niveau, en fait, vous vous adressez à ces besoins-là plutôt qu'à des besoins classiques d'habitation ou de logement?
En fait, on a vraiment repris les fondamentaux de l'architecture, disons comme une mise au service d'une qualité architecturale pour tous. Du coup, repenser l'architecte comme un professionnel au service des individus. Okay. Donc ça veut dire pourquoi il y aurait des individus plus méritants que d'autres pour avoir accès à l'architecture. Et nous, c'est vraiment l'idée de descendre d'un piédestal de l'architecte qui fait son œuvre. Et puis après, tu as le droit peut-être de la parcourir sans la toucher, mais en tout cas, d'être dans l'usage qu'on a prédéfini pour toi. Non, là, c'est vraiment de retourner au fondamental en disant on a besoin de faire des choses dans des espaces et les espaces doivent s'adapter à nos besoins. Mais pour tous. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui aient accès à des qualités d'usage et pas d'autres. Donc, en fait, c'est de l'architecture dite sociale aujourd'hui, mais en fait, c'est juste de l'architecture pour tous. Ça paraît aberrant qu'on ait estampillé l'architecture comme un bien de luxe, finalement, et le confort à un prix. Et du coup, c'est que pour un certain segment de population. Après, justement, on est trois parce qu'on a trois profils complémentaires. Donc, en effet, Gwenaëlle, elle a une expertise de long terme. Elle a exercé en libéral pendant longtemps. Donc, c'est elle qui nous a fédérés, Clotilde et moi, à l'occasion de l'appel du pavillon de l'Arsenal, frère. Ouais. Et justement, Clotilde, elle travaillait sur le réemploi dans ses projets depuis un moment. Et moi, j'étais en contrat doctoral sur un segment du mal-logement. Donc moi, je suis sensible à cette question depuis longtemps, mais vraiment dans l'idée que l'architecture est un service pour tous. Et on a connecté, du coup, ces deux pôles en créant Faire Avec.
Et est-ce que tu penses... Enfin, toi, ou est-ce que c'est dans les valeurs de Faire Avec que finalement cette question de ne pas considérer les ressources à leur juste valeur, de jeter en fin de vie, de ne pas favoriser une architecture qui soit bio-inspirée ou qui soit responsable, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a, une corrélation entre ça et le mal-logement?
On a une habitude de considérer les choses en termes économiques. Donc, s'il n'y a pas d'argent à faire, on ne va pas s'y intéresser. Et donc, en fait, jeter, c'est plus simple. Pour l'instant, ça coûte moins cher de jeter que de réemployer éventuellement. Et du coup, on a cette habitude de ne pas considérer si ça ne rapporte pas d'argent. Et pour le coup, nous, on était partis à un moment en disant « Mais comment ça se fait ? Enfin, c'est pas possible qu'il y ait des objets et des personnes qui valent rien. Enfin, ça n'existe pas. » Donc, c'est changement de regard sur les choses en essayant d'apporter finalement d'autres angles. Non, peut-être que la valeur économique, elle n'a pas encore émergé. En tout cas, on va déjà commencer par un changement de regard pour parler plus social, par exemple, ou pour parler plus en termes environnementaux. Du coup, par exemple, il y a souvent la question de « Est-ce que vos projets coûtent moins cher ?» Donc, si vous réemployez, c'est que ça coûte moins cher. Et au début, on répondait toujours un peu gêné. « Ah non, désolé, mais c'est... » Non, en fait, c'est peut-être même plus cher. Et du coup, c'était un argument pas du tout valable. Même pour nous, vendre une prestation qui coûte plus cher, enfin, ça marche pas. Et du coup, on a tout de suite dit « On veut pas incarner cet architecte qui dit non tout le temps, qui est finalement pas à l'écoute de « Moi, j'ai besoin d'un projet moins cher. » »« Ah non, c'est pas ça. » Et donc, ne serait-ce que par des habitudes de langage, de changer notre réponse en disant pas non, mais en disant tout de suite oui, ça coûte moins cher, mais pas pour le coût auquel tu penses. Ça, donc en fait, ça sera sûrement un coût constant, mais ce sera moins cher pour la planète. Et du coup, on essaye d'avoir des réponses positives à chaque fois pour avoir un engouement un peu plus fort pour les projets de ce genre. Et donc, c'est ça, c'est une question de considération en disant bah oui, il y a des personnes qui sont mal logées parce qu'on ne regarde pas leurs problèmes forcément. Mais en fait, il y a plein de choses à aller chercher. Et après, on essaiera de les valoriser économiquement pour que ça parle au plus grand nombre, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des intérêts ou des enjeux économiques. Donc, comment on peut créer de la valeur à partir de quelque chose qui n'est pas monétaire à la base ? Donc, nous, on n'a pas du tout envie d'avoir une démarche un peu misérabiliste, tu vois, où on s'appuie sur des ménages dits précaires qu'il faut aller aider parce que vraiment ils s'en sortent pas sans nous, un peu surplombant. Ouais. Et en plus, on retrouverait cette image de l'architecte.
Je suis ici, je viens les aider, exactement. Ils ont besoin de moi.
Je suis le sauveur du monde, vous vous rendez pas compte. Personne n'avait vu qu'il fallait utiliser les déchets pour les mettre au service des pauvres. C'est horrible, c'est hyper stigmatisant. Donc on veut pas du tout être assimilé à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Faire Avec se concentre plutôt sur la récupération de matériaux inexploités neufs. En disant, bon, alors c'est une filière un peu spécifique, mais on n'est pas dans le réemploi. Nous, on essaye vraiment de se mettre sur ce petit segment. D'autant qu'on est en complémentarité d'acteurs existants qui sont déjà sur le réemploi. Donc pour des facilités d'accès aussi et de mise en œuvre, on est sur les matériaux neufs en priorité. D'autant que c'est pour les mettre en œuvre dans des habitats dits précaires. Du coup, on ne voulait vraiment pas jouer le déchet.
Dans le précaire, on met que du seconde main. Et si tu veux du neuf, t'as intérêt à avoir plus tard.
Va au Hilton, quoi.
Ouais.
Non, c'était clairement pas le but. Et après, il y a des... Enfin, moi, j'ai un exemple de centre d'hébergement qui, justement, a récupéré de la literie d'hôtel de luxe. C'est génial. Ouais. Parce que, du coup, un matelas est bien meilleur que le mien en centre d'hébergement. Ouais. Donc, il faut jouer ce changement de regard.
Ouais, ce changement de regard et aussi ce côté le déchet ou le matériau en seconde vie, donc si on peut éviter de dire déchet, c'est bien, n'est pas destiné uniquement à des situations précaires ou de moindre qualité, mais au contraire, en fait, parfois, tu peux avoir aujourd'hui aussi des hôtels de luxe qui vont avoir éventuellement du seconde main et inversement, du logement social avec du neuf, ça n'a rien à voir, quoi.
Surtout, ce qui peut être dangereux aussi, justement, en faisant émerger une filière, c'est que ça prenne beaucoup trop de valeur et que finalement, le jus de fruits moche, hein, il coûte plus cher qu'un jus lambda et du coup, que ce soit accessible à des gens qui ont les moyens. Donc, faut aussi faire attention à finalement valoriser sans que ça dépasse l'objectif premier de le rendre accessible à tous.
Et du coup, t'évoques les matériaux neufs. Donc je suppose que c'est quoi? C'est des fins de série? C'est des chutes?
Ouais, c'est ça. Les rebuts, les surplus, les erreurs de commande sur les chantiers.
Ouais.
S'il y a un changement de conception, on peut avoir déjà demandé à être livré, donc ça arrive et en fait on ne va pas le mettre en œuvre. Ou alors des dégâts minimes qui empêchent la livraison mais qui en fait ne touchent pas les garanties. Donc on peut les récupérer aussi et qu'ils soient considérés comme des matériaux neufs. Nous, ça nous permet vraiment de s'extraire de la remise en conformité des matériaux, qui est vraiment un des freins à l'action, quoi.
Et du coup, c'est un objectif que vous avez à moyen terme? Est-ce que c'est un objectif de faire du réemploi? Ou est-ce que vous vous en tenez uniquement à c'est une première étape ou...
Alors, de se concentrer sur les matériaux neufs, c'est une première étape pour nous. Ouais, on n'exclut pas du tout le réemploi, ouais. Surtout avec les maîtrises d'ouvrage privées, où c'est un peu plus simple. L'objectif, c'est finalement pas de dire on va travailler seulement avec des matériaux aujourd'hui inexploités. L'objectif, c'est que ce soit même pas une question. En fait, on travaille avec des matériaux. D'où ils viennent, c'est pas la question. C'est qu'on n'en parle plus. Et aujourd'hui, faire avec est obligé de promouvoir ça, d'aller discuter pour valoriser cette filière. Mais finalement, ça devrait être la filière commune. Enfin, c'est pas une filière alternative.
Et comment ça se passe avec toutes les parties prenantes? Parce qu'on sait que dans le bâti, aujourd'hui, c'est pas encore ça. C'est-à-dire que au niveau de toute la chaîne de valeur, et c'est pour ça que je suis aussi super contente de te recevoir, parce que c'est le premier podcast qui est dédié au sujet, mais... Comment, que ce soit au niveau des promoteurs s'il doit y en avoir, que ce soit au niveau des bailleurs s'il doit y en avoir, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, comment est-ce que c'est reçu, comment est-ce que vous allez finalement lever ces freins qui sont, donc les freins budgétaires, on en a parlé, ça passe par le discours que vous avez, mais aussi les freins légaux. Tu l'as aussi un petit peu évoqué avec le côté matériaux neufs plutôt que matériaux de réemploi. Mais qu'est-ce qui fait que vous y arrivez et que personne n'a réussi?
Bon, on est encore assez jeune, trop jeune pour avoir le retour d'expérience. Hein.
Ouais.
Clairement, on n'a pas encore d'opération exemplaire là-dessus. Concernant tous les acteurs autour du projet, on a identifié que, par exemple, pour la commande, souvent c'était des intérêts autour des valeurs, autour de la promotion de l'opération. Donc on vient nous voir parce que justement, ça peut faire bien. Donc c'est juste de l'image et après c'est difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut rappeler l'intérêt premier, puis quand viennent les difficultés, reconvaincre, alors que t'as l'impression que t'es déjà avec un client convaincu, mais c'était qu'une question de promotion. Donc ça, c'est assez difficile. Les maîtrises d'œuvre, elles sont, enfin, quand tu leur donnes cette démarche clé en main, il n'y a pas de souci, bien sûr, on y va. Après, quand il y a les premiers...
premiers obstacles.
Ouais, finalement, une fois que l'opération elle est valorisée comme ça, que ce soit réalisé comme ça ou non, c'est pas trop l'intérêt.
Ouais.
Donc là, la difficulté, elle est plus dans la véritable application de la démarche sur le chantier pendant l'opération. Mais elle est engagée, à la base. Après, il y a les entreprises, où il y a un vrai défi concernant la fourniture et la pose.
L'entreprise du bâti, donc les fournisseurs de matières premières, les artisans, etc.
Aujourd'hui en France, sur les chantiers, les entreprises sont et fournisseurs et main d'œuvre. En fait, ils viennent avec leurs matériaux et c'est à ce niveau-là qu'ils font en général leur marge. Donc c'est sur le matériau et le fait de le fournir eux-mêmes qu'ils peuvent se rémunérer correctement. Et en fait, ça, c'est parce que leur main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre est en général minoré, parce qu'ils peuvent faire la marge sur les matériaux. Donc nous, dans ce système-là, le but, c'est de valoriser ce qui s'appelle le tâcheronat.
Le
tâcheronat.
Ok.
Le tâcheronat, c'est l'idée de distinguer la fourniture et la pose.
D'accord, oui.
Okay. C'est un modèle qui est commun. Au Burkina Faso, ça fonctionne comme ça. En Angleterre, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, en France, on ne fonctionne pas comme ça parce qu'on a un carcan d'assurance, notamment, et que c'est toujours difficile de gérer les interfaces de garantie. Donc, en fait, quand la moquette est mal posée et qu'elle cloque, par exemple, on a toujours un peu de mal à savoir quelle assurance on va aller chercher, l'assurance de qui on va aller chercher. Et du coup, si on distingue fourniture et pose, ça fait encore plus d'assurance et du coup des conflits d'interface. Mais c'est pas plus difficile, c'est juste une nouvelle habitude de travail à prendre. Donc nous, on valorise le tâcheronat en disant, on invite des entreprises à participer au projet. Faut savoir que vous, entreprise, vous n'allez pas pouvoir faire votre marge sur le matériel que vous allez fournir. Cependant, on joue la transparence en disant, faites des devis extrêmement exhaustifs et on revalorise la main-d'œuvre, puisque c'est normal que votre travail soit rémunéré à sa juste valeur, et c'est juste un peu aberrant que vous ayez, entre guillemets, à tricher sur la marge des matériaux pour être payé correctement. Donc c'est pour ça que les opérations sont aussi à coût constant.
Ouais.
En fait, là on va pouvoir gagner un peu sur le prix du matériel, nous on revalorise la main d'œuvre pour que les entreprises puissent s'y retrouver et finalement mettre en œuvre correctement les produits sur le chantier. Parce que d'autant plus ça valorise le travail.
Plus savoir-faire, quoi. Donc,
exactement, c'est une valeur humaine ajoutée. Tu sais faire, c'est normal que tu sois payé correctement pour le faire.
Ouais, et puis mieux tu sais faire, mieux tu vas te payer aussi.
Ouais. Ouais, on espère.
Ouais. Ok. C'est plus pour revenir à, on va dire, à la genèse du projet et donc toi à ton parcours. Donc toi t'es architecte de formation. Vous êtes toutes les trois architectes.
Oui.
Ok. Qu'est-ce qui vous a fait faire franchir le pas, en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit allez, on y va? Et toi personnellement aussi, pardon.
Ouais, on a à peu près la même raison, hein.
Ouais.
C'est que on était dans un travail assez solitaire finalement, chacun de son côté. Clotilde sur leur emploi, moi sur le mal logement, Gwenaëlle sur son exercice libéral. Et en fait, c'était juste le ras-le-bol de travailler seul. On peut être très isolé dans son travail. Donc comment on peut se regrouper et jouer collectif? Parce qu'en fait, si on veut avoir un petit impact sociétal, on peut pas le faire chacun de son côté, véritablement. Professionnellement, en tout cas, ça fonctionne pas. Donc c'était vraiment de dire, aujourd'hui, si on veut participer à l'architecture sociale et solidaire, faut qu'on se mette ensemble. Donc c'est jouer collectif. Et c'est ça vraiment qui nous a porté. C'est-à-dire, on a réfléchi à notre proposition pour faire en 2017, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça communiquait. Et qu'on a des expertises qui sont complémentaires et qui ne peuvent appliquer une démarche plus responsable, plus vertueuse dans l'architecture que si elles sont en alliance au quotidien, dans un travail au jour le jour, ensemble.
Et donc, du coup, le contexte, c'était un peu justement en 2014, là
2017. Ouais.
Et c'était, rappelle-moi, c'était un...
Alors, c'était FAIR,
ouais.
FAIR Paris.
Mais c'était un appel à candidature.
Oui, c'était un appel à projet innovant,
ouais, c'est ça.
Lancé par le pavillon de l'Arsenal.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas vraiment de cahier des charges.
Ouais.
C'était très libre. Un espace des possibles incroyable qui a pu être l'occasion pour nous de penser comment on voulait exercer notre métier dans les prochaines années.
Et c'est dans ce cadre-là que vous avez réuni les cerveaux et vous vous êtes dit on y va, quoi.
Ouais, on a passé quand même pas mal de temps gris à réfléchir à la question. On a rencontré beaucoup d'acteurs aussi, un peu les figures qui nous faisaient rêver, les compagnons bâtisseurs notamment, desquels je suis vraiment admirative. Et en les rencontrant, on essayait de trouver l'offre complémentaire qui pouvait faire émerger d'autant plus ce mouvement. Les compagnons bâtisseurs, par exemple, ils font de l'auto-rénovation accompagnée. C'est-à-dire, ils viennent sur le chantier avec les ménages concernés. Ils font plutôt du second œuvre, en fait. Et donc, on n'allait pas sur ce champ-là. et voir peut-être en amont ce qu'on pouvait faire côté bah, gros œuvres ou des travaux plus conséquents qui ne pouvaient pas être réalisés par les ménages eux-mêmes, mais venir voilà, compléter la démarche des compagnons bâtisseurs.
D'accord. Et vous connaissiez toutes les trois avant ou...
Alors, on a partagé des bureaux.
Ok, voilà. D'accord.
On était dans les mêmes locaux. Clotilde travaillait pour une agence. Gwenaëlle exerçait en libéral et moi j'étais en stage de fin d'études dans l'autre agence.
D'accord, ok. Oui.
Donc c'était vraiment à l'occasion bah, des pauses café, du déjeuner, enfin tous ces temps qui sont en dehors du travail où en fait on peut aussi parler du travail, donc comment on voudrait le faire plus tard. Donc rencontrer des gens bah, avec qui on ne travaille pas sur le moment mais avec qui on peut développer des solutions.
Ok, top. Et donc, du coup, là, tu évoquais les compagnons bâtisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, du coup, aussi bien sur faire avec que même avant, quand toi, tu t'es orienté sur le mal-logement et la question du réemploi, j'imagine, était aussi un peu présente dans tes réflexions. Est-ce qu'il y a des projets qui soient liés à la construction ou non qui t'ont... inspiré ou qui t'ont dit ah ouais je veux faire pareil mais à mon échelle ou je veux faire pareil mais dans la construction voilà.
Ouais. Bah il y en a... je vais parler personnellement parce que pour le coup on n'a pas le même lot de références forcément, mais moi je suis clairement je fais clairement partie de cette génération d'architectes qui ont les opérations de Patrick Bouchain en tête. C'est un peu le paternel des collectifs d'architecture aussi. Donc, cette notion de permanence architecturale qui est mise en œuvre là, incroyablement par Sophie Ricard à l'Hôtel Pasteur, à Rennes. Et du coup, l'idée que voilà, c'est vraiment l'architecte au service de l'humain, comment on fait de la haute qualité humaine, et donc comment on est au plus proche des premiers concernés pour élaborer les programmes. Donc moi, j'étais très concentrée sur les phases amont des opérations, dans la définition des besoins, des programmes, avec les premières personnes concernées. Okay. Donc ça, ouais, l'Hôtel Pasteur pour moi, Boulogne-Billancourt, tout ça, c'est des opérations que je juge remarquables, qui prennent beaucoup de temps, qui sont un investissement humain de la part de l'architecte qui est très fort aussi. Ça peut être des opérations qui te bouffent, clairement, qui t'ouvrent des horizons, des milieux auxquels t'es pas habitué aussi. Donc c'est une capacité d'adaptation de la part de l'architecte qui se met à la place des gens pour lesquels il va construire. Donc t'as un peu l'impression d'être un comédien dans ces moments-là, où justement comment tu incarnes finalement ce pour qui tu construis, mais je trouve ça génial. Là, il y avait... j'ai découvert le travail d'Umberto Riva, par exemple, qui met toujours la petite étagère à chapeau dans ses logements, parce que lui porte son chapeau, et du coup il pense aux petits détails qui font que tu te sens chez toi à partir du moment où t'as le petit objet qui te rappelle que ah on a pensé à toi en fait à ce moment-là parce qu'on sait que tu portes un chapeau. D'accord. Donc tu as ton étagère à chapeau. Et moi c'est tous ces voilà les détails d'usage dans les édifices qui me plaisent. Donc ça tu peux pas le faire si tu connais pas les gens qui vont habiter ton opération.
Ce côté empathie, parce que nous c'est un peu le cas, moi quand j'interviens auprès d'étudiants sur toute la partie design circulaire, créativité, etc., la notion d'empathie je me mets à la place de personne, mais c'est complètement théâtral, mais c'est dur, c'est dur. Et puis surtout on joue un rôle quoi, mais c'est ça qui fait qu'après ton objet, ton produit, ton œuvre, elle va répondre non seulement, enfin pas seulement à tes impulsions, à tes projections, mais aussi à ceux à qui vraiment tu t'adresses quoi. Donc,
ok. Puis ça c'est quelque chose qui peut être difficile à mettre en place aussi parce que ça demande d'adapter ton langage, c'est-à-dire qu'il y a un gros effort de traduction qui doit être fait tout le temps parce que t'es entre différents mondes, dans un monde professionnel où tu vas dialoguer avec des entreprises, donc c'est un certain champ lexical que tu dois aussi traduire à une maîtrise d'ouvrage qui est pas forcément habituée à ces termes, qui les connaît pas, et donc tu passes beaucoup de temps aussi à expliquer les choses. Et chez Faire Avec, l'objectif c'est vraiment d'être transparent, justement en expliquant, en prenant le temps de décortiquer les choses pour que les aléas aussi soient mieux compris. Dans le sens où si tu as l'impression en tant que maîtrise d'ouvrage de voir les tenants et les aboutissants de chaque petite opération, un moment où il peut y avoir une dérive, bah, t'es plus à même de... Enfin, elle est intelligible. Donc, tu ne vas pas la contester ou tu ne vas pas te braquer. Ou... Donc, tu pourras participer à la résolution du problème.
Et donc ça, cette explication-là, elle se fait où? Elle se fait en amont? Elle se fait, enfin, je sais pas, en amont, tu vas avoir, enfin, tu vois, par rapport à des projets ou à de la conception classique, tu as un rappel dans ton brief de toutes tes étapes avec un bon détail. Est-ce que c'est tout au long, enfin, tu vois, je sais pas, à chaque étape, comment est-ce que vous mettez en place et en œuvre ce côté bien définir, bien comprendre comment ça s'imbrique.
Bah, c'est un des enjeux de la permanence architecturale.
Ouais, c'est ça.
Parce que finalement, quand tu es plus souvent sur le site, bah, tu es plus souvent en contact dans des moments informels aussi de discussion. Donc, tu peux tenir au courant plus facilement les maîtrises d'ouvrage sur l'avancée des opérations.
D'accord.
Là, c'est sûr, enfin, les études de faisabilité pour le centre d'hébergement qu'on a menées et qu'on a rendues là, il y a quelques temps. On s'est rendu compte que bah, les personnes qui étaient hébergées dans le centre, ce qui leur importait plus que à quoi ça allait ressembler dans le futur, c'était vraiment quand est-ce que les travaux allaient commencer et où est-ce qu'on allait être à partir du moment où les travaux avaient commencé. Donc en fait, c'était très compliqué de se projeter sur le bâtiment futur, puisque le point vraiment de cristallisation, c'était bah, la suite, où est-ce qu'on va être, où est-ce qu'on va être hébergé. Donc en fait, chaque fois qu'on y allait, c'était on commence par faire un point de quand est-ce que ça va commencer. Même si la réponse, et c'était toujours la même, on ne sait pas. On ne sait pas. Clairement, aujourd'hui, notre réponse, c'est on ne sait pas. Mais même si tu donnes cette réponse qui peut paraître bah, pas suffisante, c'est hyper rassurant.
Même parce que tu y
Parce
as
que
pensé, quoi. Tu sais que ça.
tu sais que c'est leur. Enfin, c'est à ça qu'ils pensent. Donc tu réponds déjà à leurs angoisses premières. Et tu leur dis la vérité, tu sais pas, tu vas pas leur mentir. Donc eux peuvent se rendre compte aussi que toi aussi t'es dans une certaine instabilité.
Et quel est votre contact avec les habitants? Est-ce que, enfin, au niveau, en fait, dans les projets, donc, comme tu dis, hein, c'est encore tout récent, hein, mais à quel moment, en fait, vous allez les mobiliser? Tu vois, on parlait de l'empathie juste avant. Est-ce que bah, c'est juste, on se met dans une pièce, on essaie de se mettre à sa place et de faire des jeux de rôle, ou est-ce que bah, on va sur le terrain, on les interroge? Est-ce que c'est tu vois, de la co-conception?
Alors, bah, du peu d'expérience qu'on a aujourd'hui, dans le centre d'hébergement, ça a commencé par une entrée très en douceur. Donc, on est arrivé pour la première fois à l'occasion des tables d'Aude, qui est un super projet d'hyper voisin dans le 14e arrondissement de Paris. Bah, ils prennent possession d'une rue, vraiment d'une rue. Il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de vélo, il n'y a plus rien. Et ils dressent 700 couverts.
Ah oui, samedi,
C'est génial, c'est génial. Et donc, c'est les riverains et tous ceux qui le souhaitent, il y a la page Facebook de l'événement, qui viennent avec leur pique-nique et qui partagent sur cette immense tablée. Et il se trouve que la rue, c'est celle du centre d'hébergement. Et en fait, eux, ils se sont positionnés vraiment comme bah, on va offrir quelque chose à l'événement, et donc on va distribuer le café parce que nous c'est hyper facile, on a une grande cuisine, enfin voilà, donc on distribue le café et ça change le regard sur le centre d'hébergement puisqu'ils deviennent vraiment positifs. C'est plus les riverains qui sont excédés parce qu'il y a des mecs qui clopent à la porte toute la journée et qui potentiellement gueulent dans la rue, c'est bah, les mecs qui offrent le café chaud en fin de repas. Donc c'est déjà c'est enfin voilà, sur le changement de regard, c'est essentiel. Et dans l'opération du centre d'hébergement, et dans les centres d'hébergement en général, il y a quand même plutôt cette mouvance-là, c'est d'ouvrir le centre au quartier. Donc notamment par la mise en place de salles plutôt polyvalentes qui peut accueillir des associations extérieures. Disant, tu vas pas au centre d'hébergement juste parce que en fait tu es dans le besoin à ce moment-là et que tu sais pas où dormir et du coup tu viens là. Tu peux aussi venir dans le centre d'hébergement bah, parce que en fait tu fais du yoga et pendant 2 heures le centre il est ouvert aux yogistes. Et ça change l'image de l'édifice.
Ça a arrêté de siloter, quoi. Genre, pas de dire le centre d'hébergement, c'est que pour un besoin
Égal
d'hébergement.
pauvre, voilà, clairement. Et du coup, nous, on est. Donc, notre premier contact, c'était à cette occasion. C'est génial aussi d'arriver et finalement d'être bénéficiaire de ce qu'ils étaient en train de faire. Ça change la posture tout de suite. Parce que bah, c'est toi qui remercies, en fait, du moment partagé qu'on t'a offert. Et ensuite, on est revenu. assez doucement, juste pour se présenter dans les couloirs, sur les pas de porte, prendre des cafés, fumer des cigarettes, et puis après...
Si tu bois pas le café, que tu fumes pas de clope...
Ah, c'est un peu compliqué, en temps d'hébergement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, il faut l'avouer. Mais tu peux trouver d'autres astuces. Boire un verre d'eau sur le pas de la porte, j'ai pas vraiment encore fait, mais il y a d'autres choses que tu peux inventer. Bah, pour aller plus en profondeur, par exemple, on s'est installé dans le réfectoire, qui était en fait ce qu'on a identifié comme le lieu de vie. Il y avait une salle d'animation, mais qui n'était pas utilisée. Donc c'était vraiment le réfectoire où les gens passent ponctuellement, justement, pour se faire à manger, pour discuter, pour regarder la télé. Et on a installé le matériel pour faire une maquette de l'existant. Et on a fait la maquette avec les personnes qui voulaient se joindre à nous. Mais il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas de temps. C'était vraiment, on s'installe, on commence la maquette. Puis si tu veux te joindre à nous, tu peux venir couper deux, trois murs. Et voilà, et tu restes le temps que tu veux. Et nous, ça nous permettait en plus d'être assez efficaces sur le relevé. Parce que on était dans le bâtiment qu'on était en train de maqueter. Donc on a besoin d'une cote, on y va et il n'y a pas de problème. D'autant qu'on peut être accompagné par quelqu'un qui va venir nous ouvrir les portes, qui va nous montrer... Et qui va nous accompagner. Donc encore une fois, tu changes le rapport, puisque c'est toi qui es dans le besoin d'aller chercher une cote, et donc c'est lui qui te donne les moyens de faire ton travail.
Ouais, et puis de nouveau, pour revenir à ce que tu disais au début, tu es pas l'archi qui fait son travail de son côté, qui est là pour améliorer ton bâti, et qui du coup va un peu se positionner au-dessus, c'est-à-dire que dès qu'il a besoin de quelque chose, c'est tout un ramdam, c'est hyper formel, c'est machin. En fait, là... on est tous au même niveau, chacun fait ce qu'il a à faire. Toi, tu regardes la télé ou tu fais ce que tu veux. Moi, je fais mon boulot ici et faisons-le ensemble. Quoi. Ça équilibre. Quoi.
Oui, on essaye d'être assez horizontal dans le travail. Exactement. En fait, c'est aussi la posture de se dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aberrant qu'aujourd'hui, on puisse juger qu'il y a des objets et des personnes qui servent à rien. C'est juste qu'on n'a pas vu ce qu'il pouvait apporter au projet. Donc, de rendre des moments comme ça accessibles à tous, notamment à des gens qu'au départ, tu peux considérer comme vides, là, tu leur donnes des occasions éventuellement de saisir des prises auxquelles tu n'avais pas pensé, mais où ils vont t'apporter leur point de vue, leur expertise. Et par exemple, d'être dans le réfectoire pour faire la maquette, on a été vite... sollicité aussi par les 2-3 personnes qui utilisent la cuisine régulièrement et qui clairement t'emmènent dans la cuisine et te disent là le plan 3 cm en dessous, là l'évier plutôt double, plutôt un autre derrière aussi parce que quand on est deux, blabla. Et donc tu peux tout de suite être au cœur du problème qu'ils ont dans cette cuisine-là. Et donc t'as la cuisine sous les yeux, le déjà là, et avec l'humain qui a l'habitude de la pratiquer, tu vas l'améliorer parce que tu vas pas en reconstruire une neuve partie de toi, comment tu cuisines chez toi.
Mais du coup, ce qui est aussi génial dans ce que tu dis, c'est que c'est redonné au travail. Moi, je trouve que tu vois, aujourd'hui, tu as le travail d'un côté, tu as la vie sociale de l'autre. On a de plus en plus de projets de projets ou de métiers ou autres qui vont pouvoir associer les deux, faire un pont entre les deux. Mais en fait, là, dans ce que tu dis, c'est aussi redonner de l'espace. Donc, tu disais tout à l'heure prendre du temps, tu disais rencontrer des gens, mais c'est aussi redonner de l'espace finalement au côté social, au côté échange, au côté partageons des moments, même si on est en train de bosser, quoi. Et c'est pas parce que, ça peut être un sujet sérieux, tu vois, regagner la confiance des gens, en parler autour de nous, réunir des personnes autour d'un truc sur lequel je bosse pour finalement avoir des résultats qui sont plus intéressants. C'est un truc qu'on a complètement perdu, quoi. Aujourd'hui, on veut pas partager, on ne fait pas de transparence. Si je bosse là-dessus, je veux le garder pour moi. Et en fait, là, ce qui est génial, c'est que tu dis, mais moi, c'est mon boulot. Et en fait, à la fois, c'est un moment de vie, c'est un moment... c'est pas que uniquement, des cotes dessiner à quoi ça va ressembler, quoi.
Oui, on peut avoir tendance à oublier en tant qu'architecte que c'est des moments très importants dans la vie des gens. Quand tu fais une maison, c'est pas tous les 4 matins que toi, tu fais ta maison. Donc, clairement, c'est le climax de ton habitat, ce moment de la construction. Et il ne faut pas se perdre, nous, dans nos métiers, dans un espèce de systématisme. C'est une maison. En fait, je suis en train d'en faire 3 en même temps. L'année prochaine, ce sera la même chose. Je ne prends plus le temps d'expliquer comment on fait. Hein, faut vraiment se rappeler à chaque fois que c'est la première fois, peut-être, pour la personne avec qui tu travailles, et puis c'est peut-être la seule fois de sa vie.
Ouais, c'est clair. Et puis c'est pas que l'hierarchie, enfin, moi j'évoquais ça, on a travaillé sur un projet à gestion des encombrants, sur lequel, bah, en fait, on a essayé au maximum de mobiliser, tu vois, les parties prenantes, de prendre le temps d'aller les rencontrer. Et puis, derrière, sur la partie expérimentation, c'est de rester un maximum sur place, sans forcément, tu vois, formaliser le truc, du type, je vais poser telle question et c'est telle info que je veux, mais un peu laisser le champ ouvert et penser un peu de place à l'imaginaire et le truc auquel on ne s'attendait pas.
Ouais, ça, c'est... Bah, moi, j'avais... un peu aborder ça du coup dans le cadre de la recherche ou bah, les entretiens à questions ouvertes quoi.
Ouais.
T'es pas directif.
Ouais, c'est ça.
Donc en fait tu n'attends pas de réponse clairement. Mmh. De toute façon tu sais pas exactement ce que tu vas trouver. Donc
ouais.
C'est ouvrir le plus large et puis laisser l'espace pour que quelque chose d'un peu étonnant émerge et que ce soit finalement ton objet de recherche.
Et ce côté un peu, tu vois, on évoque la date des travaux, on évoque je sais à peu près le concept, mais je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler. Ça, c'est... Enfin, comment est-ce que tu le vis dans ton travail ? Est-ce que c'est... Je sais pas, c'est difficile ? Enfin, nous, c'est le cas aussi. Hein. Je pense qu'on est nombreux, et comme tu dis, on est nombreux aussi à mentir en disant que ce serait pour telle date, alors qu'au fond, on sait absolument que ce ne serait pas pour telle date, ou encore pire, on ne sait pas du tout à quelle date ce sera.
On prépare les déceptions.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais donc, du coup, en fait, finalement, j'ai un peu la réponse dans ma question. En fait, la seule différence entre ce que toi ou avec Faravec vous faites quand on est dans ce côté indécis, c'est juste que vous le dites, mais en fait, a priori, on est tous dans la...
Oui, c'est une incertitude qui est normale, c'est pas grave.
Ouais.
Il y a des choses aussi, l'imprécision des choses.
C'est pas plus difficile, quoi.
Ouais, et puis surtout, ça sert à rien de le cacher.
Ouais.
Enfin, comme je te disais tout à l'heure, c'est quand on comprend mieux les tenants et les aboutissants des choses... On est plus à même de les partager et de les gérer. Donc si on explique pourquoi, bah, par exemple, là, certains documents, je sais pas, tu déposes un PC, un permis de construire, il vaut peut-être mieux ne pas être trop exhaustif pour après avoir les marges de manœuvre quand tu vas réaliser.
Ouais,
bah, ça, faut que tu l'expliques. Non, bah, le dessin que je vous fournis, c'est à peu près comme ça. Mais justement, là, on va pas dessiner exactement, parce que potentiellement, plus tard, ça va bouger. Et si on le dessine trop précisément, il faudra faire un PC modificatif, tout ça, ça va prendre plus de temps. Donc, on explique où on en est, pourquoi on fait ça.
Mmh.
C'est hyper important.
Ouais, c'est clair.
Et la place de l'imprécision, justement, bah, notamment pour gérer après sur le chantier, quand on utilise des matériaux qui sont pas forcément standards ou qu'on peut pas cibler dès le début, c'est très important.
Mmh. Ouais, et puis l'imprécision amène aussi du coup bah, le côté unique aussi des projets et le côté bah, en fait on y va à tâtons et c'est ça qui va faire que ça va marcher quoi.
Ouais, et là tu prépares pas tant la déception,
ouais.
Tu prépares une surprise quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est un petit cadeau de...
ouais.
On a trouvé ça quand même quoi. Comment on va pouvoir le mettre en œuvre, on sait que vous avez tel besoin, ça a pas l'air, ça répond pas comme ça au premier abord à votre besoin, mais regardez si on joue autrement, est-ce que ça vous va.
Et à quel moment enfin en tout cas avec du coup là l'expérience que t'en as, mais en fait finalement à quel moment c'est quoi, c'est ça, on y va tu vois expérimentation par expérimentation et puis à un moment on sait que c'est la version finale, parce qu'il y a quand même un moment où tu vas dire bah c'est comme ça qu'on fait et ou est-ce que c'est quand tu poses la dernière brique et tu dis bah voilà c'est comme ça que ce sera et pas autrement.
Bah pour l'instant je sais pas exactement.
Ouais.
Je pourrais pas répondre à cette question vraiment. Je sais juste là dans les phases où on en est. Ce qui est chouette, par exemple, pour le projet d'écolieu dans le sud de l'Aisne, c'est que la maîtrise d'ouvrage, par exemple, a compris la démarche autour des matériaux et a déjà recensé tout ce qui traînait sur le terrain.
Des cailloux, des feuilles...
Ouais, enfin, franchement, des bastins, des choses, en effet, qui pourraient juste être... il faut mettre un coup de propre, là, on prend une benne et on vire tout, parce que, je sais pas, il y a les archis qui vont arriver, il faut que ce soit un peu clean... On vire tout. Non, pas du tout. Eux, ils ont relevé tous les trucs, ils ont pris les photos, les dimensions, tout ça, et ils nous ont fourni la liste des matériaux de ce qui n'était pas utilisé aujourd'hui et qui traînait sur le terrain. Donc nous, après, c'est le jeu de voir, bah ça, non, vraiment, ça, pour le coup, une motte de paille de moins d'un mètre cube. Bah là, je sais pas trop, non. Mais c'est super chouette de voir l'enthousiasme qu'il peut avoir une fois que la démarche elle est expliquée,
ouais,
et que ça ouvre le regard en disant ah, mais en fait, sur mon terrain, j'ai des choses. Donc, est-ce que les archis peuvent penser avec moi comment ces trucs-là pourraient répondre à mon besoin ?
Ouais, c'est clair. Et du coup, je suppose que c'est... Enfin, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est ce vers quoi j'allais arriver, mais c'est faire avec, quoi. C'est, ouais. Ma question, c'était le pourquoi faire avec. Mais en fait, c'est ça, c'est repartir de l'existant et...
Ouais, faire avec le déjà-là.
D'accord.
Et du coup, autant des objets que des humains. Une opération, enfin...
Ouais.
Immobilière, en soi, c'est quand même, à la base, des murs et des gens dedans, quoi.
Ouais. Oui, donc pourquoi aller chercher des matériaux vierges et aller chercher des personnes qui sont même pas concernées par ces enjeux pour tout mettre ensemble
Ouais.
Ok.
Bah après, voilà, y a, dans la complexité des opérations, c'est sûr qu'il y a de mettre aussi tous les besoins en accord dans le projet.
Ouais.
Parce que, bah, notamment sur les opérations de centres d'hébergement, la difficulté, c'est justement que les clients ne sont pas les utilisateurs du lieu, disons. Et donc, comment ne pas être réfractaire non plus aux enjeux économiques d'investissement dans les lieux ? Parce que, clairement, c'est des besoins. Nous, en termes social, disons, on va être peut-être moins réceptifs, mais ça n'empêche que ton opération n'existe pas s'il n'y a pas des gens qui ont des enjeux financiers dessus aussi.
Ouais.
Donc, quand je disais tout à l'heure, il faut être capable d'adapter son langage aux différents publics avec qui tu travailles pour une opération, bah, c'est savoir... comprendre des besoins vraiment d'usage et puis des besoins d'investissement et faire le lien entre les deux. Là, tu retrouves ta mission de base de chef d'orchestre de l'ensemble des besoins pour monter une opération. Parce que c'est quand même une opération aussi. Donc, tu as un lieu que tu construis, mais c'est aussi une opération. Donc, des sous et de l'investissement.
Et là, vous avez lancé, enfin, il y a les premiers projets qui sont, les premiers chantiers qui sont enfin, t'es vocale à le projet d'Ornel.
Ouais. C'est des études, toujours.
Des études, pardon.
Ouais, on rend les études.
Comment c'est de bosser sur ces, enfin, tu vois, de rendre ces premières études, satisfaction, vous êtes, c'est ce vers quoi vous voulez arriver, est-ce que...
Alors, rendre des études, c'est toujours un... Enfin, toujours. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en architecture dans la pratique, proprement parler, puisque j'avais ce profil vraiment plus recherche.
Ouais.
Moi, je me suis orientée vers le doctorat assez rapidement. Du coup, c'est vraiment une... Genre, à part à l'école, je rendais pas de projet. Mais à l'école, tu le rends pour ta propre satisfaction et celui de ton enseignant. Et là, c'est vraiment de se dire, en fait, ce projet que je vais rendre va se réaliser. Donc forcément, ça te fait toujours un peu palpiter, c'est normal. Après, avec l'expérience, je ne sais pas ce qui va se passer quand tu rendras des études. Mais du coup, on a vraiment l'engouement en disant, c'est chouette, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Ouais, on a formalisé, c'est le premier petit pas. Pour faire avec, c'est très important qu'on soit justement dans les études. Parce que les deux pôles se jouent dès le début. Donc en fait, si on ne participe pas à la définition du programme, on ne peut pas mettre en place la démarche. Nous, les deux pôles, du coup, c'est la démarche matériaux, donc la mise en œuvre de matériaux inexploités, plutôt neufs, et la remontée des besoins, donc cette définition du programme. Si on ne fait pas les études, on va être sur quelque chose de déjà beaucoup trop défini pour la mettre en place. Donc l'objectif... c'est de partir de A, de faire un projet de A à Z. Donc là, on a même pas un an encore vraiment. On a plus d'un an de réflexion, mais on n'existe pas depuis plus d'un an. Donc on est bien.
Ouais.
On a plusieurs études déjà en cours, donc c'est chouette.
C'était rapide.
Hein. Ouais.
Et surtout, ce côté études, il est clé dans le côté derrière, explication, définition, enfin, tu vois.
La confiance avec la maîtresse d'ouvrage.
Elle s'est créée là aussi, quoi.
Clairement. Après, il faut vraiment être sur le chantier pour éviter les petites dérives qui vont mettre à mal le projet. Et finalement, la permanence architecturale, elle se joue clairement aussi sur le chantier. Parce qu'à force de laisser passer des petites choses, par manque de temps ou par inattention, bah, la démarche, elle se casse la gueule. Donc il faut vraiment avoir un regard tout au long du processus.
Enfin, nous, on dit souvent sur nos projets, l'idée c'est 1%, l'exécution c'est le reste. Donc bon, je dirais peut-être pas sur l'étude, tu vois, la permanence, la permanence avec un ratio égal. Mais effectivement, tu vois, le côté permanence, je pense qu'il est essentiel et beaucoup de choses se jouent aussi sur l'exécution. Et cette capacité à apporter, parce que c'est pas tout de préparer le terrain. Il faut aussi avoir cette agilité, avoir cette intelligence et je suppose aussi cette expertise pour pouvoir apporter des solutions, en fait, tout simplement. Aux aléas ou aux différents freins que tu vas rencontrer au quotidien, quoi. Donc, ce serait trop facile. Hein.
Bah, dans un premier temps, on peut se dire que c'est un peu perdre du temps.
Ouais.
Je perds du temps à t'expliquer encore une fois comment ça se passe, alors que je pourrais... allez, on y va, quoi. Et c'est accepter donc, d'avoir l'impression de perdre du temps au début, dans l'espoir que, justement, ce soit juste semer des graines pour résoudre plus rapidement les problèmes qu'aurait pu, clairement, faire prendre du retard incroyable au projet plus tard.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est un pari. C'est un pari. En effet, t'as des opérations où tu consultes pas ta maîtrise d'ouvrage et ça peut très bien se passer et on y va. Mais généralement, tu as quand même un lot d'imprévus qui te tombent dessus. Et donc, le temps que tu as perdu, entre guillemets, en amont, c'est du temps que potentiellement tu peux... gagner dans la résolution des problèmes futurs.
C'est un investissement, quoi.
C'est un investissement.
Ouais, t'investis ton temps au début, mais en fait, c'est pour gagner du temps derrière.
On croise les doigts, ouais. Ouais. C'est notre pari, en tout cas. Non, mais sinon, si tu le prends pas comme un pari, tu considères juste que t'es pas rentable, que t'es en train de faire un travail de bénévole, et ça, c'est pas viable professionnellement. Tu peux pas fonctionner comme ça.
Oui, et puis il faut... Enfin, sur ce côté viabilité, ce temps-là que tu passes, vous le valorisez aussi. Enfin, vous le valorisez, du coup, dans votre démarche, et je suppose aussi, tu vois, quand tu fais derrière tes facturations, mais c'est, bah ouais, mais là, je vais passer plus de temps, j'en passerai moins derrière, et ce temps que je vais passer, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, il est nécessaire sur la qualité du rendu final, quoi, donc...
Ouais, et c'est aussi penser qu'aujourd'hui, on peut être considéré comme un peu alternatif ou innovant, parce que c'est le mot du moment.
Ouais.
Mais en vrai, il faut vraiment travailler à la structuration de la filière et que juste elle soit tout aussi efficace que celle dont on a l'habitude. Et à partir du moment où voilà, il y aura l'offre nécessaire et les demandes, parce qu'en général, c'est ça, c'est aussi là où on peut mettre en œuvre tous les matériaux qu'on a déjà identifiés, qui est présente et qui est volontaire et qui n'a pas peur et c'est juste normal, on pourra rentrer dans un système de facturation, si tu veux, un peu plus traditionnel.
Il ouais.
n'y a pas de raison non plus que ce soit les premiers qui payent la structuration de la filière. On peut pas se permettre d'être plus cher parce que justement c'est pas encore, suffisamment systématique.
Et ça, t'as bon espoir sur le côté... Bah, on l'évoquait encore hier avec Rola, mais sur le côté, en fait, aujourd'hui, acheter du réemploi, du second main, ça peut coûter plus cher, la législation n'est pas en faveur, donc les choses bougent, et heureusement, enfin, surtout pour le bâti, qui est un des premiers consommateurs de ressources et producteurs de déchets. Toi, t'as bon espoir sur la structuration et sur l'engagement des acteurs? T'as plus d'intérêt, je pense.
Oui, j'ai plus d'intérêt, sinon je pense pas que je serais là. Non, bien sûr, je pense que clairement, nous, faire avec, c'est pas lancer à partir de rien. On s'appuie quand même sur tout un lot d'acteurs qui est déjà engagé dans cette économie circulaire, sociale et solidaire. C'est un mouvement qui a émergé. On peut même plus dire qu'il est en train d'émerger. Ouais. Donc, c'est des habitudes de travail à prendre. Nous, on passe beaucoup de temps justement à aller parler aussi aux futurs professionnels. Pour placer les graines tout de suite dans les esprits des gens qui vont faire le bâtiment plus tard, pour que ce soit des évidences. Donc oui, j'ai espoir. Après, il faut voir combien de temps ça prendra.
Ouais.
Ça, je sais pas, mais...
Okay.
Non, espoir toujours.
écoute, déjà, merci beaucoup pour tout ça. C'est passionnant. Est-ce que tu aurais des infos, des éléments ou un petit mot de la fin pour conclure cet échange, quelque chose que tu souhaites absolument nous dire ou je sais pas, la prochaine étape pour faire avec.
Qu'est-ce que j'aurais envie d'ajouter pour finir? Nous, on passe, comme je venais de le dire, beaucoup de temps à parler.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, finalement. Ça ne rentre pas dans un modèle économique très viable.
Ouais.
Donc ça, pour l'instant, c'est plutôt bénévole. Mais c'est nécessaire, donc on le fait. L'idée, c'est d'avoir de plus en plus d'exemples, de cas exemplaires pour valoriser la démarche, pour valoriser juste un savoir qui va dans ce sens-là. Et du coup, de donner les moyens de les mettre en place. Moi, je pense que justement, les avancées législatives là, sur le permis de faire, d'innover le droit à l'erreur même aussi, qui sont en train de s'instaurer, peuvent être des bons soutiens.
Mm.
Donc, il faut toujours penser qu'on travaille sur le terrain, mais qu'il y a beaucoup de travail aussi législatif à faire, et que c'est très important de prendre la parole, même si pour l'instant, ce n'est pas viable pour les boîtes.
Ouais.
C'est clairement... le moment de s'exprimer et puis d'aller toquer aux grandes instances pour en parler. Nous, on travaille plutôt du coup, dans le monde de l'architecture avec l'Ordre des architectes, qui est en train de bouger, qui est en train, parce qu'il a quand même été pas mal contesté par les générations, la nôtre aussi. Hein. Et du coup, comment on essaye de construire des instances qui nous ressemblent? Et donc ça, c'est par le dialogue, très
ouais.
clairement. Donc il faut en parler, mais il faut aussi avoir des cas sur lesquels s'appuyer pour mettre en avant les initiatives.
Ok. Super.
Et ça te va comme dernier mot de la fin?
Ça me va comme dernier mot de la fin. Surtout après le petit mot sur l'espoir, c'est parfait. Est-ce qu'éventuellement, il y a 2-3 coordonnées que tu souhaites partager? Je ne sais pas si y a envie de contacter, soit pour un projet, soit pour des infos. On parle de dialogue, donc est-ce qu'il y a 2-3 choses que tu veux...
Alors, on nous a souvent identifié comme plateforme de récupération de matériaux.
Ouais.
Alors, je veux bien préciser qu'on ne récupère pas directement les matériaux.
Ouais.
Donc, c'est très chouette de recevoir plein d'infos sur tout ce qu'il y a à récupérer. mais du coup, on a fait une page sur notre site internet, faireavec.org, qui s'appelle « Participer, les gisements ». Et on a référencé la majeure partie des plateformes, en tout cas celles avec lesquelles nous, on travaille. Que vous pouvez aller voir directement pour donner les matériaux qui sont inexploités chez vous. Donc ça, c'est sur le site internet et il y a une page de contact aussi pour toutes les autres informations.
Top.
Demande d'interview pour rapport HMO. Nous ne prenons pas encore de stagiaires, malheureusement.
Okay. Ouais, vous devez recevoir aussi un paquet de...
Ouais, mais c'est super chouette parce que du coup, ça montre qu'il y a un véritable entrain.
Puis c'est plaisant, quoi. Ouais.
Alors, après, nous, on manque encore de ressources pour les accueillir, on fait notre maximum. Hein. Mais clairement, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est pas forcément avec Faire Avec que ça se fait. C'est aussi lancer ses propres initiatives. Clairement, il y a, le terrain de jeu, il est très grand. Faut y aller.
Super. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous, en tout cas, de nous avoir donné l'occasion de prendre la parole encore une fois.
Bah, écoute, avec grand plaisir, il faut dialoguer.
Ouais.
Et puis, surtout, bon courage pour les prochaines étapes, pour le rendu des études. Et j'espère que, du coup, ça débouchera sur de super projets. Et puis, du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on mettra évidemment tous les liens qui ont été mentionnés dans l'article. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à les contacter. Et puis, à très bientôt et merci pour votre écoute.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.